VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Oui, bonsoir à tous. Bagassi Koura et Jean-Roger Bion en votre compagnie. Bienvenue à l'édition du vendredi 24 avril 2015. À la une ce soir, un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine aux environs d'Anafis dans la région de Kidal. 7 casques bleus ont été blessés, dont 6 gravement. Élection demain au Togo, le gouvernement ferme les frontières. Les députés sud-africains ont décidé de ne pas siéger la semaine prochaine pour mener campagne contre la xénophobie dans leur circonscription. Et puis centenaire des massacres d'Arméniens par les Turco-Ottomans, le président arménien Serge Sargsyan a de nouveau exigé la reconnaissance du caractère génocidaire de ces massacres.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine aux environs d'Anafis dans la région de Kidal. 7 casques bleus ont été blessés, dont 6 gravement. La MINUSMA condamne cette attaque qu'elle qualifie d'acte terroriste. Boubacar Touré est notre correspondant à Gao.
Dans un communiqué publié ce vendredi, la mission onusienne au Mali annonce qu'un de leurs véhicules qui escortait un convoi de sous-traitants de la mission a heurté une mine hier vers 13h30, heure locale, aux environs d'Anafis dans la région de Kidal. Suite à cette explosion, 7 casques bleus ont été blessés, dont 6 grièvement. Les blessés ont été rapidement évacués pour recevoir des soins appropriés. La MINUSMA condamne fermement cet acte terroriste ayant pour but de paralyser les opérations de la mission onusienne dans le nord, alors que le gouvernement du Mali se prépare à signer des accords de paix avec les groupes armés du Nord le 15 mai prochain à Bamako. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
3 personnes sont mortes et 14 autres ont été hospitalisées après avoir inhalé des gaz toxiques dans une mine d'or du Ghana. C'est ce qu'a déclaré la compagnie en charge de l'exploitation. Selon la compagnie minière Shanxi, une filiale de la Chine Gold Resources Company Limited, 17 personnes ont dû être secourues au total et elles ont toutes été transportées à l'hôpital de Bolgatanga dans le nord-est pour y recevoir des soins. Une enquête est en cours.
Le gouvernement togolais a annoncé avoir ordonné la fermeture des frontières terrestres du pays vendredi soir à dimanche matin en vue de garantir des conditions optimales de sécurité durant l'élection présidentielle prévue demain samedi. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest de 7 millions d'habitants, est appelé aux urnes samedi pour une présidentielle qui oppose le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à 4 candidats de l'opposition. La campagne présidentielle de 2 semaines qui s'est déroulée sans heurts s'est achevé hier à minuit, heure locale. Nous y reviendrons dans la partie magazine de ce journal.
8 militaires français forment une 60aine de spécialistes de l'armée camerounaise au déminage dans la région de l'extrême nord du Cameroun où les islamistes nigériens de Boko Haram ont posé des engins explosifs. C'est ce qu'indique l'AFP, citant l'ambassade française à Yaoundé.
Les députés sud-africains ont décidé de ne pas siéger la semaine prochaine pour aller mener campagne contre la xénophobie dans leur circonscription. Idriss Fall.
Le Parlement ajoute sa voix au concert de condamnation des violences contre les étrangers en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a reçu les responsables d'associations d'immigrés et a encore une fois dénoncé la haine, la violence, le racisme et la xénophobie. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à Johannesburg. L'armée a été appelée en renfort pour tenter de ramener le calme dans le township d'Alexandra. Les attaques contre les immigrés africains avaient commencé à Durban. Elles ont fait au moins 7 morts et des milliers de déplacés. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, ces immigrés sont accusés de prendre le travail des Noirs sud-africains les plus touchés par le chômage et la vie dure dans les bidonvilles. Selon le Centre des migrations africaines de l'Université Witwatersrand de Joburg, plus de 350 étrangers ont été tués depuis 2008.
L'effondrement des services de santé dans 3 pays ouest-africains dévastés par Ebola pourrait avoir causé jusqu'à 11 000 décès supplémentaires dus au paludisme. À ce chiffre s'ajoutent 3 900 autres décès qui résulteraient d'interruption de la fourniture de moustiquaires imprégnés d'insecticides selon les données de modélisation des épidémies publiées ce vendredi dans la revue médicale britannique The Lancet à la veille de la journée mondiale contre le paludisme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police italienne affirme mener en ce moment des raids visant 18 extrémistes islamistes présumés. Ces derniers seraient liés à des attaques au Pakistan et pourraient avoir prévu d'attaquer le Vatican cette année. Le procureur Mauro Moura a déclaré aux journalistes en Sardaigne que deux personnes qui auraient étaient gardes du corps d'Oussama Ben Laden figurent parmi les suspects. On pense que d'autres suspects avaient planifié une attaque contre le Vatican et selon la police, les sujets de l'opération à l'échelle nationale seraient des Pakistanais ou Afghans.
Le président arménien Serge Sarkissian a remercié les dirigeants étrangers, dont François Hollande et Vladimir Poutine, venus participer aux cérémonies commémorant les massacres d'il y a 100 ans d'Arméniens par les Turcs ottomans qui pensaient qu'ils appuyaient l'ennemi russe pendant la guerre. M. Sarkissian a de nouveau exigé la reconnaissance du caractère génocidaire de ces massacres. Michel Joseph.
Le président Hollande de France, où vit une importante communauté arménienne, a souligné que son pays n'oubliera jamais la mort de ses Arméniens.
Je tenais, au nom de la France, à être présent à Erevan, en ce 24 avril 2015, pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées.
De son côté, le président Vladimir Poutine de Russie a déclaré que rien ne saurait justifier des meurtres de masse. Pour la Turquie, il n'y a pas eu de génocide. Ces Arméniens ont été tués par une guerre civile où ils étaient aidés par les Russes. Et puis, soutiennent les Turcs, le bilan des morts est de loin inférieur à 1,5 million. Ankara proteste officiellement contre tout gouvernement qui parle de génocide. Hier, le président Barack Obama a utilisé le mot « massacre » et non pas « génocide » dans sa déclaration sur l'anniversaire. Mais le même jour, le président allemand Joachim Gauck a parlé pour la première fois de génocide, disant que l'Allemagne assumait une part de responsabilité dans ces tueries.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, signale une accumulation substantielle de matériel militaire russe près de la frontière ukrainienne, y compris plus de 1000 pièces d'équipement lourd, des systèmes d'armes sophistiqués, des chars et de l'artillerie. S'exprimant hier à Bruxelles, Stoltenberg a également accusé le Kremlin de fournir une formation avancée aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine malgré le cessez-le-feu négocié il y a 2 mois par la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France. Stoltenberg affirme que ce renforcement militaire donne une grande raison de s'inquiéter de nouvelles offensives militaires des rebelles.
L'Agence pour les réfugiés des Nations Unies, le ACR, a salué l'annonce de l'Union européenne de vouloir tripler son aide pour les opérations de recherche et de sauvetage maritime dans la Méditerranée. Le ACR souligne que ce qui est important pour les réfugiés, c'est l'accès à l'asile après avoir fui la violence dans leur propre pays. L'élargissement des opérations de recherche et de sauvetage est une première étape importante, a souligné l'agence onusienne. Celle-ci a exhorté l'UE à fournir d'autres voies légales pour la protection des réfugiés.
Une série de nouvelles études par des sismologues américains établit un lien très étroit entre le forage des puits de pétrole et de gaz et l'augmentation inquiétante du nombre de tremblements de terre dans des zones qui ne sont généralement pas sujettes à l'activité sismique. La principale cause est l'utilisation accrue de la fracturation hydraulique. Le procédé consiste à pomper de l'eau à haute pression de sable et de produits chimiques dans des formations rocheuses dans les profondeurs du sol.
Et puis, revenons sur cette information, le gouvernement togolais a annoncé avoir ordonné la fermeture des frontières terrestres du pays ce vendredi soir, à dimanche matin, en vue de garantir des conditions optimales de sécurité durant l'élection présidentielle prévue samedi. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest de 7 millions d'habitants, est appelé aux urnes samedi pour une présidentielle qui oppose le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à 4 autres candidats de l'opposition. La campagne présidentielle de 2 semaines qui s'est déroulée sans heurts s'est achevée hier soir à minuit, temps universel. Nous y reviendrons dans la partie magazine de notre émission.
Et au Mali, un véhicule, vous le savez déjà, de la MINUSMA saute sur une mine aux environs d'Anafis, dans la région de Kidal. 7 casques bleus ont été blessés, dont 6 gravement. La MINUSMA a condamné cette attaque qu'elle a qualifiée d'acte terroriste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Africa. Voilà, coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco et ce soir, c'est avec Nathalie Barche.
La première foire internationale d'Abidjan ouvrira ses portes le 28 avril au Palais des Sports de Trècheville. Quelques 400 exposants de différents pays sont attendus, a annoncé jeudi Adja Bakayoko Nodian, la directrice générale d'Ivoire Nobala, qui organise l'événement. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à la foire internationale d'Abidjan qui a été reportée du 28 avril au 10 mai pour ne pas avoir lieu au même moment que le salon de l'agriculture. L'Alliance internationale des riverains des plantations Sokfin Bolloré a débuté plusieurs actions d'occupation des terres confisquées en Afrique et en Asie. Le mouvement va se poursuivre jusqu'aux prochaines assemblées générales du groupe. J'ai contacté à Paris Héloïse Mollet, la coordinatrice de REACT, une organisation qui met en relation les organisations de travailleurs dans le monde.
Le groupe Bolloré a apparemment essayé d'avancer avec le groupe Sokfin qui semble bloquer la situation et n'a pas montré la volonté de rencontrer, de dialoguer avec les représentants des organisations de riverains sur le terrain.
Oracle Academy et la Fondation Rapsberry Pi ont lancé ce vendredi une station météorologique pour les écoles, annonce l'organisation de presse africaine. Le projet vise à rassembler des milliers d'écoles en Afrique et ailleurs autour d'une expérience scientifique. Les étudiants pourront construire et mettre en service leur propre station météorologique à l'aide de kits spéciaux. Sur un microsite, ils pourront rédiger un blog et interagir avec d'autres écoles participantes.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. C'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Alors, Ligue des champions en Europe, des demi-finales de feu.
FC Barcelone-Bayern de Munich, le match vedette puisque Pep Guardiola, l'ancien entraîneur emblématique du club catalan, est l'actuel coach de la formation bavaroise. Les matchs allés se jouent les 5 et 6 mai prochains. Cette confrontation, c'est la revanche de la demi-finale d'il y a deux saisons. Bagassi, souvenez-vous, c'était en 2013. Le Bayern avait humilié les Catalans 4-0 en demi-finale à l'aller, 3-0 au retour. De ce côté, le Real de Madrid, tenant du titre, possède 10 Ligues des Champions dans son armoire à trophées. Eh bien, le Real fera face à la Juventus de Turin, le club italien qui l'a remporté deux fois.
Et puis la Ligue Europa, le dernier carré est aussi connu.
Séville, tenant du titre, porté par son goleador Kevin Camero, jouera contre la Fiorentina de Super Mario Gomez en demi-finale. Tandis que le nouveau venu, Dniepropetrovsk, n'a pas eu de chance puisqu'il affrontera Naples de Gonzalo Higuain.
35e édition du Marathon de Londres, un feu d'artifice en vue.
Et oui, les trois hommes les plus rapides de l'histoire, trois Kenyans évidemment, devant le balcon de Buckingham Palace ce dimanche. Denis Kimeto, recordman du monde en 2h 2 minutes 57 secondes, sera le chef de file d'un peloton kényan a priori imbattable. Il sera à la lutte avec Emmanuel Mutai, 2h 3 minutes et 13 secondes son record personnel, et Wilson Kipsang, tenant du titre à Londres et recordman de l'épreuve en 2h 4 minutes et 29 secondes, avec un record personnel à 2h 3 minutes et 23 secondes.
Et pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Golden State, méconnaissable et distancé de 20 points, a réussi un incroyable revirement de situation pour signer hier soir en prolongation sa troisième victoire consécutive face à la Nouvelle-Orléans 123-119. Les Warriors peuvent décrocher leur billet pour les demi-finales de conférence dès le quatrième match, ce sera demain, lors du troisième match de Chicago contre Milwaukee, remporté par les Bulls à l'issue de deux prolongations 113-106. Derrick Rose a marqué 34 points. Et puis les retrouvailles du jour, LeBron James a inscrit 31 points et capté 11 rebonds lors de la troisième victoire de ses Cavaliers de Cleveland à Boston, 103-95.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassé Kouré, Jean-Roger Bion, en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour.
Les Togolais vont aux urnes demain pour élire leur président. Le président sortant Faure Gnassingbé fait face à 4 autres candidats. Pour une idée de la situation dans le pays en cette veille du scrutin, retrouvons à Lomé notre correspondante, Kaye Lawson.
À la veille du jour du scrutin, seules les affiches font la campagne dans les rues de Lomé. Les candidats et leurs militants ont respecté le jour de silence de ce vendredi 24 avril. Dans les QG des partis politiques, on se concentre sur le déploiement des membres dans les bureaux de vote et on finalise les dernières stratégies pour avoir les procès-verbaux. À la CENI, la tension monte. Les représentants des partis de l'opposition sont contre une nouvelle méthode de compilation non prévue par le code électoral. Il s'agit du logiciel Suissain. Kodjogan Atou, vice-président de ADI, dont le professeur Aimé Gogué est le candidat.
Le processus de compilation des résultats, le logiciel Success, bon, ce logiciel, on n'est pas contre, il faut évoluer. Mais il n'y a pas consensus autour et c'est venu un peu dans la précipitation. Donc nous avons souhaité garder ce qui est conforme au code électoral, c'est-à-dire la compilation à partir des procès-verbaux émanant des bureaux de vote. Ce n'est pas une question de pour ou contre. Le succès, c'est peut-être bien, mais c'est venu un peu dans la précipitation. On ne sait pas quelle idée il y a derrière. Donc nous ne sommes pas favorables à l'utilisation du succès.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante interpellée se défend. Il persiste et signe que les dispositions du code électoral seront respectées. Nous écoutons Tafa Tabiou.
Le succès, c'est simplement le monitoring des opérations de vote, la transmission des résultats du bureau de vote vers la CENI et l'aide à la centralisation au niveau des CELI. Ce n'est rien d'extraordinaire. L'ancien système n'est pas abandonné, le code électoral l'a prévu et nous le pratiquons. Ceci ne vient qu'en complément et pour accompagner. Ce n'est pas le principal. C'est le code électoral qui reste le principal et nous utilisons la forme papier, les procès-verbaux des bureaux de vote et les procès-verbaux des CELI.
Pour le mouvement citoyen pour le développement et la démocratie MCD, il faut renoncer au logiciel succès qui porte en lui des germes de la contestation du scrutin. Gaston Colani, directeur de campagne du candidat du MCD.
La transmission des résultats, c'est-à-dire qu'il faut donner les résultats bureau de vote, pas bureau de vote, selon notre code électoral qui est en vigueur. Nous ne voulons pas autre chose que ça. Il faut que l'on les respecte. Mais si on ne les respecte pas, on est sûr que les résultats seront contestés par les candidats.
Demain, les Togolais iront élire leur président pour le prochain quinquennat. Les opérations de vote commencent à 7h temps universel et prennent fin à 16h. Kaye Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Niger, une campagne de vaccination massive contre la méningite a débuté ce matin. La maladie fait des ravages depuis quelques jours dans le pays. Plus de 1000 cas ont été enregistrés avec une centaine de décès selon les autorités sanitaires. La campagne a traîné avant de débuter par faute de vaccins. Le gouvernement a lancé une commande qui n'est arrivée que jeudi. Le point dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Jusqu'à 10 heures, les vaccins se faisaient encore attendre dans la plupart des écoles que nous avons visitées ce vendredi matin. Ce père de famille avec ses enfants commençait même à s'inquiéter.
Et nous, on nous a dit de revenir le lundi et les enfants sont à la maison. Logiquement, on doit attendre normalement le lundi pour qu'on fasse ça. Mais ils nous ont appelé par le communiqué. L'inspecteur nous a appelé pour nous dire qu'il y aura la vaccination aujourd'hui. Mais jusqu'à cette heure-là, jusqu'à présent, on attend.
Quelques minutes plus tard, les équipes de vaccinateurs arrivent. Les enfants éclatent de joie. Une joie qui ne sera pas au rendez-vous pour tous. L'école compte en effet près de 300 élèves. Les équipes sont venues avec moins de vaccins.
Ça ne peut pas suffire. Ce n'est que le début. Il y a d'autres doses qui vont encore venir, mais ce n'est que le début.
Un peu plus loin, dans une autre école, nous avons trouvé des équipes qui ont déjà aussi fini leur stock de vaccins.
Ici, on est à l'arrêt 2. On a commencé la vaccination depuis 10 heures. Tous les élèves de la classe ont été vaccinés.
Il y a bien sûr les heureux vaccinés et les malheureux qui attendent encore.
Je ne suis pas vacciné et je ne suis pas content.
Cette campagne a en fait débuté sans que le besoin réel en vaccin ne soit couvert, comme l'annonçait le ministre de la Santé la veille, Manu Agali.
Les besoins en vaccin, si nous devons considérer l'ensemble du territoire national, c'est l'âge de 2 à 29 ans, c'est 13 636 000 qu'il nous faut. Dans la zone où l'épidémie est déjà déclarée, nous avons besoin de 1 174 659 000. Avec ce qu'on a dit disponible, ce que l'État a acheté et ses partenaires, c'est 606 416, d'où un gap de 668 243.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Burundi, le parti au pouvoir CNDD-FDD s'apprête à désigner demain son candidat à la présidentielle. L'opposition et la société civile sont mobilisées contre toute candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza, qui a déjà fait 2 mandats. Pourquoi ce samedi est un jour de tous les dangers? Idriss Fall a fait adjoint à Bujumbura, Pierre Clavet Mbonipa, le président de l'association pour la protection des droits de l'homme, APRO-DH.
C'est le jour du congrès du parti au pouvoir, et c'est le jour où on va décider alors le candidat que le parti qui est au pouvoir présentera pour les présidentielles d'août 2015. Tout le monde est aux yeux braqués sur les décisions qui vont sortir, en sorte qu'on va présenter encore l'actuel président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, alors qu'il vient de 2 mandats, j'ai brigué le 3e mandat alors que c'est contre la Constitution et contre les accords d'Arusha, raison pour laquelle beaucoup de gens attendent impatiemment ce que va dire le parti au pouvoir après le Congrès.
Et l'opposition dans tout ça, que dit l'opposition?
L'opposition a été toujours contre la candidature de l'actuel président de la République. Ce n'est pas nous seulement avec mais l'Église catholique, même quelques protestants ont dit qu'ils sont contre le 3e mandat du président de la République. Il y a même beaucoup de gens qui ont déjà fui vers le Rwanda, vers le Congo, vers la Tanzanie, craignant qu'il puisse y avoir des émeutes à cause de cette candidature. Mais je crois que le président de la République se prononce et dit non à la 3e candidature. Je crois que ça sera juste la clé pour dire voilà la paix, voilà ce qu'attendait la population. Mais une fois qu'il dit je suis pour la 3e candidature, et nous-mêmes nous ferons des manifestations jusqu'à ce que le président de la République ne brigue pas toujours au 3e mandat.
Est-ce qu'il risque pas de retourner dans le cycle de violence et les rébellions que le Burundi a connues?
Bon, le type de violence, oui, il peut y avoir des violences, mais pour nous, en tant que défenseurs des droits de la personne humaine, et vous savez que même les religieux n'aiment pas les violences, mais nous allons faire des manifestations sans violence. Et une fois que la police utilise la force, je sais que la population va aussi se défendre, raison pour laquelle nous avons fait la suite, il peut y avoir de la violence. Mais nous avons confiance à notre armée burundaise. C'était ce qui...
Pierre Clavet Mbonipa, il est le président de l'Association pour la protection des droits de l'homme au Burundi. Oui, ici aux États-Unis, c'est l'ébullition à Baltimore, dans l'État du Maryland, où des centaines de protestateurs manifestent depuis quelques jours. Rassemblés dans le centre de la ville, ils exigent des changements dans le système judiciaire suite à la mort d'un homme noir de 25 ans après son interpellation par la police. Lionel Gaïma.
Mais en l'air, avec des éclats de voix, les manifestants ont défilé pendant des heures dans la ville de Baltimore. La foule en colère a érigé des barricades par endroits pour exiger de l'explication sur ce dernier acte de brutalité policière. Jamal Bryant, l'un des fers de lance de la manifestation, demande des améliorations dans le traitement de la majorité noire dans la ville, mais aussi à travers toute l'Amérique.
C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'est pas un incident nouveau. Nous voyons la même chose à Saint Ford, en Floride, à Ferguson, Missouri, et maintenant ici à Baltimore. Il doit y avoir une refonte complète du système.
Parmi les manifestants, Kiona Mack, qui a enregistré avec son téléphone l'arrestation le 12 avril dernier de Freddie Gray, qui a été traîné de force dans un fourgon de la police.
Il existe beaucoup de Freddie Grays et ce n'est pas la première fois que la police viole les droits et assassine un individu.
Des familles ont par la suite rejoint les manifestants devant le poste de police lourdement gardé à quelques blocs de l'endroit où le jeune Gray a tenté de fuir la police avant d'être rattrapé et menotté. Ahmed Royalty habite à Soundtown, un quartier de Baltimore.
The goal is to make sure...
L'objectif est d'assurer par tous les moyens au sein de ma communauté que mon fils ne sera pas la prochaine victime ou moi-même. La police de Baltimore a fait savoir qu'elle aura plus de réponses pour le public la semaine prochaine sur ce qui est arrivé à Freddie Gray alors qu'il était sous arrestation. Mais pour les manifestants amenés par le NAACP, le puissant lobby noir, peu importe le résultat des enquêtes locales et fédérales en cours, un grand changement est nécessaire pour réparer les préjudices subis par la communauté.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Avant de nous quitter, le rappel des titres.
Un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine aux environs d'Anafis, dans la région de Kidal. 7 casques bleus ont été blessés, dont 6 gravement.
Élection demain au Togo, le gouvernement décide de fermer les frontières.
Les députés sud-africains ont décidé de ne pas siéger la semaine prochaine pour mener campagne contre la xénophobie dans leur circonscription.
Centenaire des massacres d'Arméniens par les Turco-Ottomans, le président arménien Serge Sarkissian a de nouveau exigé la reconnaissance du caractère génocidaire de ces massacres. La police italienne affirme mener en ce moment des raids visant 18 extrémistes islamistes présumés. Ces derniers seraient liés à des attaques au Pakistan et pourraient avoir prévu d'attaquer le Vatican cette année.
Et le président arménien Serge Sarkissian a remercié les dirigeants étrangers, dont François Hollande et Vladimir Poutine, venus participer aux cérémonies commémorant les massacres il y a 100 ans d'Arméniens par les Turcs ottomans qui pensaient qu'il appuyait l'ennemi russe pendant la guerre.
Et puis l'Agence pour les réfugiés des Nations Unies a salué l'annonce de l'Union européenne de vouloir tripler son aide pour les opérations de recherche et de sauvetage maritime dans la Méditerranée. Voilà, c'est tout donc pour ce magazine de ce soir. Donc à la mise en onde, c'était Tiana. La production était assurée par Michel Joseph. À la présentation, Bagassi Koura et Jean-Roger Bion.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
De nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone.
à Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.